21h passées de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et comme chaque mercredi sur Radio Neuf à la même heure, c'est le moment de monter sur les banquettes confortables de Wagon Livre, votre émission littéraire. Je suis très heureux ce soir de l'accueillir parce que c'est un homme à multiples facettes, multiples casquettes dans le monde de l'écriture. Il nous vient de la Nièvre voisine, il est écrivain bien sûr, il est essayiste, il est historien. Auteur de théâtre, passionné de Révolution française, passionné d'histoire, Michel Benoît, merci d'être ce soir devant le micro de Wagon Livre et bienvenue à vous.
Eh bien merci, moi, je suis très heureux aussi d'être là parmi vous. Content de passer une heure avec Rayonne.
Merci Michel. Alors, je l'ai dit, vous êtes aussi romancier, vous êtes le créateur, l'inventeur du commissaire Merle, un personnage qui, par certains aspects, vous ressemble un peu, mais c'est pas le... Non ? Non, vous grimacez,
oui.
Pas vraiment.
Non, pas vraiment. Je pense que, oui, enfin, je pense qu'en fait, tous mes personnages me ressemblent dans ce genre de... Je suis un peu tout le monde. Donc,
Alors, Michel Benoît, vous avez écrit de nombreux livre, vous êtes aussi l'auteur d'un blog qui est assez consulté, c'est le blog de Michel Benoît,
tout simplement. Tout à fait,
ouais. Vous préparez en cette année 2017 une grande manifestation qui alliera du théâtre, des projections de films, des débats autour d'un personnage qui vous est cher, c'est Saint-Just, dont on commémorera cette année donc le 250e anniversaire de la naissance,
puisqu'il
est né dans la Nièvre à Decize.
Il est né à Decize, tout à fait.
On aura sans doute l'occasion de se retrouver aussi dans cette année 2017 pour parler de ce personnage. Vous êtes aujourd'hui devant le micro, Michel, pour un livre passionnant, sorti l'an dernier aux éditions Erol et qui a pour titre « Les morts mystérieuses de l'histoire, 16 récits extraordinaires dans le temps, bien sûr, du prince de Condé à Marilyn Monroe ».
Tout à fait, oui.
Michel, pourquoi cette passion pour les morts et notamment les morts mystérieuses de l'histoire?
Eh bien, il m'a semblé intéressant, je veux dire, d'actualiser un peu toutes les informations qu'on avait sur ces personnages, entre autres, puisque évidemment il y en a bien d'autres, mais j'en ai choisi une bonne dizaine qui me semblaient, je veux dire, intéressants et peut-être plus passionnants que les autres. Donc oui, on a effectivement des informations nouvelles, et il me paraissait intéressant de faire une synthèse sans pour ça, je veux dire, déclarer que j'avais trouvé l'assassin ou la véritable cause de la mort de ces personnages. Alors effectivement, on part de
d'Agnès Sorel.
D'Agnès Sorel, évidemment. Donc je l'ai écrit dans un ordre chronologique. Agnès Sorel, ensuite nous avons Henri IV, nous avons Robespierre, Louis XVII, Émile Zola, Gambetta, et puis je me suis arrêté à John Lennon en 1980 pour la simple et bonne raison que je voulais que ça reste quand même un document historique et je ne voulais pas tomber dans l'histoire people. Où il y a encore aussi des dossiers qui sont encore en cours. Je pense à l'affaire Boulin, je pense à l'affaire Bérégovoy, où il y a encore des bruits qui circulent, etc. Et je voulais pas tomber là-dedans. Et donc je voulais absolument que ça soit un véritable livre historique. Voilà.
Alors Michel, vous avez eu la gentillesse de me faire parvenir un récit autobiographique qui s'intitule « Comment vous dire ?» Et en le lisant, j'ai appris que dans votre adolescence, vous aviez été particulièrement marqué par les images que vous avez vues à l'époque. Vous avez été profondément bouleversé par l'assassinat du président Kennedy à Dallas en 1963.
Oui, ça fait partie, je veux dire, disons que j'avais la chance à l'époque d'avoir la télévision à domicile. J'ai pu suivre, avec une journée de retard, j'avais 6 ans. avec une journée de retard, j'ai pu suivre les événements qui s'étaient déroulés oui, c'est à Dallas.
Dallas.
Et par contre, j'ai vu en direct l'assassinat donc du meurtrier de Kennedy. Donc ça, je l'ai vu en direct. Et c'est vrai que ça, je veux dire, ça m'a éveillé ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, déjà, il y avait des choses qui se passaient ailleurs que dans ma rue. Et en même temps, ça m'a profondément troublé aussi, parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'était du cinéma, quoi. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, on imaginait mal pouvoir voir en direct comme ça quelque chose qui se déroulait à quelques milliers de kilomètres de chez nous, et qui avait une incidence aussi importante que le meurtre du président des États-Unis.
Et puis Michel, passionné très très jeune déjà par la Révolution française et ses grandes figures, au point même que vous en saviez plus que certains de vos professeurs d'histoire.
Ouais, mais je pense que oui, je suis pas le seul. Je pense que ça arrive aussi à beaucoup de passionnés. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai toujours été attaché à l'histoire et en particulier à l'époque, à la Révolution française. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, au même âge donc à 6 ans, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai appris à lire pour lire des livres d'histoire ou si j'ai lu des livres d'histoire ensuite pour me conforter, je veux dire, l'intéressement, la passion que j'avais pour cette matière. Mais c'est vrai que j'ai commencé par lire Michelet à 6 ans. Donc c'est vrai que mais ça se lit très bien, hein. C'est une écriture très très moderne. Et il y a un style romantique, je veux dire, qui est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a donné la première piqûre, quoi, si je peux dire. Bon, ensuite, il y en a eu d'autres qui m'ont mis des bons rappels de piqûre. Et donc, ça m'a toujours suivi. Voilà, l'histoire m'a suivi, puis la Révolution française m'a suivi aussi, puisque à travers les régions, les départements, les rues qui ont accompagné ma vie jusqu'à présent, et ben bizarrement, je me suis toujours retrouvé dans des endroits qui avaient eu une importance dans cette période de la Révolution, quoi. Voilà.
Michel, je rappelle, Michel Benoît, que vous êtes ce soir devant le micro de Wagon Livre pour Les Morts mystérieuses de l'Histoire, un bel ouvrage, peu cher, prix formidable aux éditions Erol. On marque une première pause musicale.
On peut donner le prix, hein, il est à 10 euros, hein, donc franchement. Hein.
Et c'est un très joli cadeau que l'on peut se faire ou que l'on
Absolument.
peut offrir. On se retrouve dans une poignée de minutes avec Michel Benoît et puis on parlera de Louis XVII, qui est né en 1785, qui était l'héritier de la couronne royale, hein, le fils de Marie-Antoinette et de Louis XVI.
Absolument.
Qu'est-il devenu à cet enfant royal? Eh bien, c'est Michel Benoît qui nous en parle juste après la pause musicale que nous marquons ensemble.
New York, Barcelone ou Tokyo, les mêmes gratte-ciels qui me regardent haut. Ma jeunesse qui s'enfuit avec mes rêves, la même tristesse dès que le soleil se lève. Paris, London ou Los Angeles, où que j'aille mes peurs me tiennent en laisse. Seul dans ma chambre j'ai perdu le sommeil, et les lendemains ressemblent à la veille. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs. Je suis une enfant d'ailleurs. J'imagine de nouveaux horizons, juste pour oublier qu'à la maison le passé m'étouffe. À partir, mais je reste guidée par mes souvenirs et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs, je suis une enfant. des horizons remplis d'espoir. Puisqu'ici mes peurs me tiennent en laisse, je pars, je pars.
Je m'en vais.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Les morts mystérieuses de l'histoire, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité Michel Benoît qui est ce soir en notre compagnie. Michel Benoît, avant la pause musicale, je parlais de Louis XVII. Alors Louis XVII, c'est absolument passionnant. D'abord, vous avez écrit en 2001 un livre intitulé « Louis XVII, autopsie d'un secret d'État ». Mort mystérieux, cet enfant a-t-il été changé? A-t-il été échangé avec d'autres puissances royalistes par la Révolution française dans le but d'échange ou d'intérêt diplomatique? Qu'en est-il de cet enfant né en 1785, l'héritier de la couronne de France en 1792-93?
Effectivement, donc, Louis XVI, Marie-Antoinette, avait deux enfants. Le fils aîné est mort au tout début de la Révolution française. Et donc, c'est donc notre fameux Louis, dit futur Louis XVII, qui donc était le descendant direct de Louis XVI et qui devait ensuite être roi. Donc, il était enfermé avec son père et sa mère donc, à la prison du Temple. Louis XVI va être jugé, guillotiné le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette va le suivre ensuite au mois de novembre 1793. Et à partir de ce moment-là, on va assister à une période, donc à partir du mois de décembre, janvier 1794, une période où on va isoler l'enfant complètement jusqu'au 9 thermidor, donc de l'an 2, donc le 27 juillet 1794, qui est la date à laquelle Robespierre a été arrêté et exécuté le lendemain. Alors, cette période de l'emmurement, puisqu'on l'appelle comme ça, ça consiste en quoi? Ça consiste simplement à ce qu'on en fait personne, aucun gardien, sa sœur, qui était enfermée à l'étage du dessous, à la tour du temple, ne puisse voir l'enfant. On le faisait sortir quand personne n'était dans les escaliers de la tour du temple. Il n'a pas pu sortir dehors pendant 6 mois. Etc. Donc déjà on se pose la question déjà à savoir pourquoi. Pourquoi on va isoler cet enfant, pourquoi il ne sera vu de personne, ni d'un médecin, ni... Et donc c'est la première question qu'on peut se poser. Et puis en fait, il se trouve qu'en mois de janvier 1794, son geôlier que tout le monde, enfin les gens qui s'intéressent à cette période connaissent de nom, puisqu'il s'appelle Simon, le fameux Simon qui avec sa femme était son précepteur républicain, qui devait lui enseigner les bonnes manières républicaines, va déménager Simon. Il va déménager et il va partir au Conseil Général. Et donc, en cette journée donc, du 19 janvier 1794, il va quitter la tour du Temple. Et alors donc, effectivement, il habite dans la tour et il va déménager donc, des malles en osier, des meubles, etc., pour pouvoir s'installer dans sa nouvelle demeure. Et à mon avis, cette période est la plus propice pour pouvoir évader un enfant, ou du moins l'échanger contre un autre. Alors pourquoi? Pourquoi je dis ça rapidement? Simplement parce qu'en fait, quand l'enfant va décéder, donc au mois de mai 1795, au mois de juin 1795, donc un an plus tard, on va autopsier le corps. Et donc le chirurgien qui va autopsier le corps, le docteur Pelletan, va donc mettre un trait de scie sur le crâne pour pouvoir autopsier le cadavre du jeune Louis XVII. Et puis il va se rendre compte quand même malgré tout que bon effectivement il est un peu grand quand même hein. Il ne paraît pas être âgé de 10 ans, voilà. Et donc on va l'enterrer au cimetière Sainte-Marguerite dans un cercueil où on va graver le fossoyeur va graver une fleur de lys sur le cercueil, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de détails, qui sont importants, mais qu'on ne va pas pouvoir citer ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir par deux fois, on va déterrer le corps. Et par deux fois, on va arriver aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que ce n'est pas un enfant de 10 ans qui a été enterré. Le squelette ne correspond pas à un enfant de 10 ans, mais correspond à un enfant qui avait été âgé entre 16 ans et 18 ans. Voilà. Donc, avec la longueur des os, avec tout ce qu'on peut, constater dans la médecine, déjà à cette époque-là, quoi. Et donc, il y a plusieurs médecins, donc une dizaine de médecins, qui vont par deux fois conclure qu'en fait, c'est très bizarre, mais bon, apparemment, c'est pas un enfant de 10 ans qui a été enterré, quoi. Et donc, il va falloir se poser la question après, c'est pourquoi et comment il a été substitué, puisqu'en fait, il s'agit là d'une substitution, quoi.
Donc, ça veut dire que peut-être l'enfant Louis XVII a vécu... Peut-être heureux dans un autre, dans un autre pays, une autre monarchie européenne, voisine de la France.
Heureux, je pense pas. Après ce qu'il aurait vécu, je pense pas. Vécu peut-être dans une autre monarchie, oui, mais anonyme. Puisqu'en fait, après, il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a, une partie, une affaire financière aussi derrière tout ça. Donc je pense que. Plus il est inconnu, plus il se fait petit et plus il a de chances de survivre.
Dans votre récit autobiographique, comment vous dire, c'est page 58, Michel Benoît, vous écrivez plus tard, lors de la cérémonie honteuse organisée autour du cœur du prétendu Louis XVII à la basilique Saint-Denis, j'aurai l'occasion d'écrire au ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon,
tout
pour lui demander l'autorisation d'exhumer une dernière fois le corps de l'enfant enterré au cimetière Sainte-Anne, pour prélever de l'ADN sur son squelette et le comparer à celui conservé et appartenant à sa mère, la reine Marie-Antoinette.
Tout à fait, parce qu'en fait, il y avait eu donc des analyses ADN qui ont été faites par le professeur Cassiman, donc à l'université de Louvain en Belgique. Et donc le problème, c'est que elles n'ont pas été comparées à d'autres analyses, parce qu'en fait, pour que les analyses soient reconnues, il faut deux prélèvements avec deux laboratoires différents. Et en plus de ça, on l'a payé pour le faire. Donc malheureusement, il y a des historiens français qui se sont mêlés à ça et qui ont validé, pour des raisons que je connais pas, qu'on validait ces conclusions, et donc qu'on permis à ce qu'on en fait on mette le fragment de cœur qu'on avait retrouvé à la basilique de Saint-Denis à côté des restes soi-disant de ses parents, donc dans le tombeau royal. Or les restes de cœur qu'on a retrouvés ne sont pas forcément celui de Louis XVII, mais peuvent être aussi bien celui de son frère. Qui était mort au début de la Révolution, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est très important, et qui, comme tous les personnages attachés à la royauté, donc les grands princes, ont dispersé un peu les viscères, le cœur, le cerveau, le crâne, etc., dans des monastères ou dans des endroits, qui étaient conservés d'une façon... Pour la suite, quoi, historiquement. Donc voilà, j'ai écrit à Jean-Jacques Elagon à l'époque, j'ai fait une conférence de presse, c'était aux Invalides, c'est vrai que ça a été quand même très suivi au niveau médiatique, et il n'y avait qu'une entité qui pouvait nous aider sur ce point-là, Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les cimetières, donc il y a tout ce qui est monument historique sur Paris, sont régis par la commission du Vieux Paris. Et la commission du Vieux Paris a refusé, elle aussi, à ce qu'on déterre une fois de plus, je veux dire, le corps de l'enfant, puisque c'est pas Louis XVII, hein, de l'enfant qui est enterré au cimetière Sainte-Marguerite. C'est dommage, parce qu'on aurait pu savoir à ce moment-là, avec l'ADN, si c'était vraiment lui ou pas. On n'aurait pas su ce qu'il était devenu, mais on aurait su si c'était lui qui était enterré. Voilà.
Les morts mystérieuses de l'histoire, hein, n'est-ce pas Michel? C'est le titre de votre
suivre,
ouvrage.
Ouais.
À suivre, aux éditions Erol. On marque un nouveau temps de pause musicale et on se retrouve juste après, bien sûr. Je rappelle que nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h.
Bercée par la vague blonde de tes cheveux comme une onde, je crois. Volée au-dessus du monde, mon cœur passe sous tes secondes pour toi. Quand tu pars souvent, je tremble que ma vie se désassemble sans toi. Pour un peu, j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. D'amour, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, tu vois. Dire des mots d'amour comme les autres filles, ça je ne sais pas, tu vois, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. De toi. Tes yeux bleus me font rougir, y'a qu'un mot pour me prédire ma joie. Si un jour tu dois partir, je garderai ton sourire en moi. Pour un peu j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. D'amour, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, tu vois. Dire des mots d'amour comme les autres filles, ça je ne sais pas, tu vois, ce n'est pas moi. Tout ce qui s'y forme attache à toi. Pour un peu j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. Ce n'est pas moi.
Radion. Robespierre s'est-il suicidé? Comment Agnès Sorel a-t-elle trouvé la mort? Complot, manigance, meurtre? Eh bien, en tout cas, nombreuses sont dans l'histoire les morts, et elles sont nombreuses et elles sont mystérieuses, et c'est le titre, les morts mystérieuses de l'histoire, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité Michel Benoît. Alors justement, une mort mystérieuse, début du XXe siècle, nous sommes en 1902, année de la mort accidentel, assassinat, comment l'écrivain défenseur d'Alfred Dreyfus, Émile Zola, comment Émile Zola est-il mort, Michel Benoît?
Eh bien, pour ceci, il faut se replonger, je veux dire, à cette époque. Alors, nous sommes à Saint-Michel, le 29 septembre 1902, pardon, et donc, en ce matin du 29 septembre, Émile Zola dort encore. La bonne des Zola s'inquiète un peu parce qu'ils ne sont toujours pas descendus de leur chambre. Et donc ils vont aller voir ce qui se passe, ils vont trouver la porte fermée, ils vont enfoncer la porte, ils vont trouver donc Émile Zola sur son lit, complètement inanimé, et Madame Zola donc à terre, avec ses petits chiens donc, qui est en train de suffoquer et qui ne respire pratiquement plus. Émile Zola, donc très vite, on va se rendre compte qu'il est décédé, je veux dire, voilà. Et qu'en fait, la cause de ce décès est. Donc, c'est un problème de cheminée, donc de CO2, quoi, en fait. Hein. Et puis de fumée, je veux dire, qui serait rentrée dans la pièce. Alors évidemment, bon, c'est quand même une information, une nouvelle incroyable. Tout le monde, tous les Parisiens vont venir devant la maison d'Émile Zola. On va lui faire des funérailles extraordinaires, etc. Et puis quelques années plus tard, alors on va toujours douter un peu parce que bon, c'est vrai qu'Émile Zola, c'est quand même quelqu'un de très controversé. Il a pris position, c'est un intellectuel. D'ailleurs, c'est le fondateur, je veux dire, du mot intellectuel aussi. Faut pas l'oublier. C'est intellectuel, ça vient d'Émile Zola et ça vient aussi de l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus, c'est l'affaire d'Émile Zola, c'est l'affaire de sa vie. Il a défendu contre vents et marées Dreyfus, qui était accusé d'espionnage, et il a gagné. Il a gagné, Zola. Il a gagné, il a pu prouver, je veux dire, que Dreyfus n'était pas coupable, et bien au contraire, et qu'en fait, c'était un acte, je veux dire, déjà à l'époque, antisémite. Et donc, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui en veulent à Zola. Donc, toutes les ligues de droite, militaire, etc., qui n'acceptent pas, je veux dire, qu'on ait pu s'opposer, je veux dire, à une décision qui venait de la haute autorité. Et il y a des bruits qui courent, donc, comme quoi bah, Zola serait peut-être pas mort comme ça, innocemment, accidentellement. Et l'idée va faire son chemin. Et on va penser à ce qu'il est assassiné. Mais le temps va passer. Bon, évidemment, bon, on ne va pas pouvoir le prouver immédiatement. Et un jour, il va y avoir un témoignage. Et c'est un témoignage d'un nommé Buron-Fausse qui va survenir comme ça, je veux dire, un petit peu avant l'année 1930. Et ce Buron-Fausse, qui était un agent donc de la sécurité policière, un indicateur même de la police de l'époque, et qui va avouer que dans son jeune âge, donc il devait avoir 18 ou 19 ans, il a participé avec un autre camarade, je veux dire, qui avait la même, le même, comment.
Même profil idéologique.
Même profil idéologique, voilà. Il va participer à une opération qui consiste simplement, c'est à monter sur le toit de la maison de Zola, de se déguiser en rameneur, voilà, et puis de boucher la cheminée de la chambre de Zola, et puis de repartir gentiment pour revenir le lendemain matin, toujours en rameneur, comme si de rien n'était, comme s'il faisait des réparations, ou de toiture, ou de cheminée, pour redéboucher la cheminée, parce qu'en fait, il ne voulait pas laisser de traces. Et ce témoignage-là, il va le faire à la police, donc. Hein. Et donc, il va avouer, effectivement, qu'il a participé à l'assassinat, puisque c'est un assassinat, là, à l'assassinat de Zola.
Et donc, rappelons que les obsèques d'Émile Zola ont eu lieu le 5 octobre 1902, que l'oraison funèbre avait été prononcée à l'époque par un grand écrivain français, Anatole France,
oui.
Et que les cendres d'Émile Zola ont été transférées au Panthéon en juin 1908. On marque une nouvelle petite pause musicale. Alors juste après, Michel Benoît, pour exciter la curiosité de nos auditrices et auditeurs, nous reviendrons sur la mort d'Hitler. Alors là aussi, vrai mystère. J'espère que dans ce brouillard et dans ces brumes, Michel, vous pourrez nous apporter un peu de clarté.
On va essayer.
On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité, Michel Benoît.
That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, oh, oh. Ain't nobody, no This night will last forever. Around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure, and a love so deep we can't measure.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Il est écrivain, essayiste, historien et également auteur de théâtre. C'est Michel Benoît qui est ce soir devant notre micro pour Les Morts mystérieuses de l'histoire, paru l'an dernier aux éditions Erol et que l'on trouve bien sûr toujours en librairie. Michel Benoît, avant la pause musicale, je parlais de la mort d'Hitler. Et là, je vous donne la parole pour nous faire peut-être le point sur les différentes thèses. Alors, est-ce que le corps calciné d'Hitler est bien celui du dictateur? A-t-il pu fuir? Est-il mort plus tard sur un autre continent? Alors là, fantasme, délire total même, difficile de s'y retrouver.
Tout à fait, délire total, mais en fait, on n'en sait rien. En fait. Et bon, je suis pas... En fait, comme je disais depuis... Enfin, tout à l'heure, quand on a commencé à parler de tout ceci ensemble, moi j'ai essayé de faire une synthèse de tout ça, sur toutes ces morts mystérieuses. Alors, c'est le cas d'Hitler, qui aujourd'hui peut prétendre qu'Hitler est mort dans le bunker le 30 avril 1945. On est en présence d'une situation incroyable. On est en présence d'un dictateur, je veux dire assassin, tout ce qu'on peut imaginer, qui est là dans un bunker, à l'abri des bombes, qui va disparaître, parce qu'en fait, il va disparaître pendant plusieurs heures. Aux yeux de tous, le dernier à l'avoir vu est son majordome, donc qui va lui apporter, je ne sais plus, peut-être une collation. Ou... Il va auparavant, il se sera marié avec Eva Braun, donc un mariage très rapide.
Et civil.
Et civil, en plus. Et puis, il va s'enfermer avec elle dans une pièce. Et puis... plus rien va se passer, je veux dire, à partir de ce moment-là, et personne ne verra. Alors, on va dire, ça y est, il s'est suicidé, Hitler est mort, etc. Les gens qui sont dans le bunker vont propager l'information, mais personne, ne pourra, ne va témoigner avoir vu le corps de Hitler, ni celui d'Eva Braun. Personne. Personne n'a dit, je l'ai vu, il avait un trou dans la tempe, elle aussi, ils avaient des marques cyanosées avec le cyanure, etc. Ils étaient habillés de telle façon, personne ne les verra. Et donc, Par contre, on va raconter qu'on les a remontés du bunker, donc en haut, donc à l'air libre, qu'on aura creusé un trou auparavant, qu'on aura été chercher des bidons d'essence, qu'on aura arrosé les corps, qu'on les aura mis donc dans ce trou avec la fameuse chienne d'Hitler qui avait été tuée auparavant, parce que
Blondie?
Blondie, qui aura, elle, soi-disant, essayé aussi le cyanure pour voir si ça fonctionnait bien. Et donc ces gens-là, voilà, on vont témoigner, vont dire, nous on les a brûlés, on a brûlé des corps, mais en fait on ne sait pas parce que quand on est arrivé, il y avait déjà de l'essence dessus, on n'a pas vu vraiment, il y avait des couvertures. Voilà la vérité, voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, bon, ce qu'on sait aussi, par contre, c'est qu'il va y avoir donc des informations qui sont importantes. On va savoir aussi qu'il y a d'autres gens, je veux dire, qu'on ne va jamais retrouver, comme Martin Bormann. Bormann, on ne le retrouvera pas. Alors après, on va dire qu'on a retrouvé un corps qui pourrait ressembler à Bormann dans les décombres de Berlin, etc. Mais en fait, personne ne pourra prouver que c'est Martin Bormann qui était là à la place. Enfin, qui était décédé, je veux dire, dans les vestiges du Berlin qui était envahi par les Russes. Et puis, il y a ces fameux 12 sous-marins, je veux dire, qui vont partir de Flensburg, donc à la frontière danoise, et puis qui vont partir et qu'on va retrouver quelques mois plus tard, je veux dire, au large de l'Argentine. Avec une femme qui faisait partie du convoi, donc une trentaine ou une quarantaine, je veux dire, d'Allemands dedans. Mais donc, bon, on peut se poser la question, pourquoi, comment ont-ils fait, est-ce que Hitler ne serait pas parti aussi, lui, ou n'aurait-il pas tenté de partir, est-ce qu'il est vraiment mort dans le bunker? Voilà. Parce que, bon, évidemment, aujourd'hui, on peut dire qu'il est mort, mais est-ce qu'il est vraiment mort comme on le suppose? Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. D'ailleurs, donc au niveau des témoins de l'époque, des politiques, tous vont avoir des opinions différentes et ils vont s'exprimer d'une façon différente concernant ce sujet. De Staline à Churchill, en passant par même le président des États-Unis, Joukov, le maréchal Joukov, qui va déclarer: nous n'avons pas identifié le corps d'Hitler. Est-ce que, à la limite, même Staline qui dit je suis persuadé qu'Hitler est vivant, bon, est-ce que c'est pas de l'intox aussi? Est-ce que les Russes n'avaient pas l'intention, je veux dire, de créer le doute aussi sur la mort d'Hitler pour pouvoir intensifier l'invasion et l'occupation allemande? Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Donc, en fait, voilà, on s'interroge toujours à savoir comment se fait-il que on ait si peu de renseignements concernant ce moment où il serait mort. Voilà.
En tout cas, vous essayez d'apporter un peu de clarté dans toutes les thèses, hypothèses, parce que nombreux sont les historiens qui se sont penchés sur un très grand mystère, parce qu'il
Tout à fait.
n'y a pas de corps. Là, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de
Il
corps.
n'y a pas de corps, non. Non,
Finalement,
non. Tout à
pour
fait.
Louis
Et
XVII, on
puis
ne sait
rien.
pas si c'est vraiment
Et puis
les
rien.
restes du roi,
Voilà. Et puis
Hitler, il n'y a pas de corps.
rien ne ressemble à un cadavre de chien, qu'un cadavre de chien. Donc en fait, on sait aussi qu'Hitler avait des sosies. Donc bon, voilà.
Michel Benoît, quittons la Seconde Guerre mondiale. Alors, cette fois-ci, nous sommes en 1947. Le général Leclerc, le libérateur de Strasbourg et de Paris, a trouvé la mort, lui aussi, dans des conditions étranges. Et j'aimerais qu'on s'y arrête, parce que c'est troublant.
C'est troublant et puis c'est très méconnu aussi. C'est vrai que bon, moi j'ai évoqué ce sujet-là avec des lecteurs, beaucoup m'ont dit, on ne savait pas ça. On ne savait pas que le général Leclerc était aussi au centre d'un mystère tel que celui-ci, quoi. Alors pour retrouver un peu cette idée de savoir un peu ce qui s'est passé à cette époque-là, nous sommes donc À la fin de la guerre, donc, la guerre de 39-40, et Leclerc va partir de Villacoublay dans un bombardier militaire moteur B-25, et à son bord, donc, des militaires qui vont être aguerris, je veux dire, qui l'accompagnent. Donc il y a en tout 12 personnes dans l'avion. 12 personnes. Et ils vont partir à destination de Béchar, où il est attendu pour 11h45. La météo est mauvaise. Ce sont des militaires, ils savent voler. À 12h05, l'avion envoie son dernier message. À 12h30, il n'y a toujours pas d'avion d'arrivée, et là, on va commencer à s'inquiéter. Et il y a une patrouille qui va partir au-devant de l'avion, et ils vont découvrir donc la carcasse de l'avion complètement brûlée, accidentée. Et ils vont compter le nombre de cadavres qui est autour de l'avion. Et stupeur, il n'y a pas 12 cadavres, il y en a 13. Il y avait 13 personnes dans l'avion, alors qu'en fait, ils étaient bien 12 au départ. Alors là commence, je veux dire, le mystère Leclerc, puisqu'en fait, on peut imaginer aussi que ce n'était pas un accident, mais que ça aurait pu être aussi peut-être un attentat.
C'est-à-dire que le 13e passager aurait pu être porteur d'une bombe.
Absolument, oui. Absolument.
Mais qui aurait eu intérêt à faire disparaître physiquement le général Leclerc?
Ah ben, on a parlé de commanditaires, on a cité des noms, jusqu'à celui du général de Gaulle d'ailleurs, qui à l'époque était en concurrence, enfin que les gens mettaient en concurrence avec lui plutôt. C'est vrai qu'il y avait d'un côté, je me souviens très bien, même dans les années 60, pour les anciens qui parlaient de cette époque-là, il y avait ceux qui étaient pour de Gaulle et ceux qui préféraient Leclerc. Bon, pour des raisons militaires ou des raisons de raison tactique, je veux dire, bon, à l'époque, quoi, Leclerc ayant mis les mains dans le cambouis, comme on disait, et puis De Gaulle étant à Londres. Voilà ce qu'on nous racontait à l'époque. Et puis on disait aussi que Leclerc était populaire aussi, et qu'il aurait pu mettre de l'ombre à la carrière du général De Gaulle. Voilà ce qu'on disait à l'époque. Alors, on a aussi imaginé une vengeance de la mafia, laquelle aurait très mal perçu la politique de Leclerc, qui avait été auparavant à Saïgon, Saïgon qui était une ville qui était à la main de la pègre. Et donc c'est vrai qu'il avait gêné aussi beaucoup, quoi. Et puis on parle aussi, c'est de la responsabilité des Britanniques. Alors là, ça me paraît beaucoup plus sérieux, dans le sens où un géologue ardéchois qui s'appelait Conrad Killian avait tenté à plusieurs reprises d'intéresser le gouvernement français et les militaires sur l'existence de gisements pétroliers dans le Sahara. Et il annonçait en fait, il allait y avoir quelque chose de très, très surprenant, de très révolutionnaire dans l'énergie. Et il s'était rapproché de Leclerc en lui demandant de poursuivre, je veux dire, son avancée dans le Sahara, jusque dans ces pays où il pouvait, je veux dire, en gros, c'est occuper les terres et puis annexer ces endroits-là pour que le gouvernement français en soit propriétaire. Et il se trouve que Leclerc aurait peut-être été, je veux dire, éliminé à cause de ça, parce qu'en fait, on se rend compte ensuite, par la suite, que la mort de Leclerc ne sera pas la seule mort bizarre qu'il va y avoir entre ces gens-là. Il va y avoir donc ce fameux Conrad Killian qu'on retrouvera, je veux dire, suicidé d'une façon bizarre dans son hôtel en Suisse à Genève. Et il y aura aussi le chauffeur de Killian qui va être retrouvé assassiné. Il va y avoir tout un tas de choses comme ça qui vont être. Voilà. Donc, mais on n'en saura jamais quel a été le 13e homme qui était dans l'avion, puisqu'en fait, il n'avait aucune identité. Et il sera enterré au cimetière des Saïras avec une plaque, je veux dire, vierge. Voilà, une tombe blanche.
d'obscurs dossiers.
Absolument. Ouais.
Et il y en a 16 dans votre ouvrage « Les morts mystérieuses de l'histoire » disponible aux éditions Erol. Je rappelle aussi, Michel Benoît, que vous collaborez régulièrement au magazine « Les grandes affaires de l'histoire ». Un petit mot sur ce magazine ?
Oui, oui, « Les grandes affaires de l'histoire » et puis « Les grandes affaires criminelles » aussi. Oui, c'est un magazine qui est donc des bimensuels. Qui ont maintenant un peu plus de 2 ans, 2-3 ans. Et donc je collabore régulièrement donc, à l'écriture, à raison de 4-5 articles par numéro. Quoi, voilà.
Michel, on vous retrouve dans une poignée de minutes, on marque une nouvelle virgule musicale, et ensuite nous serons au début des années 70 autour d'un... En Franche-Comté, autour d'un ancien criminel de guerre nazi qui va être reconnu. C'est juste après la pause musicale, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec notre invité Michel Benoît.
Pas fan ni envieux, mais peut-être un peu des deux. Je cherche tes défauts en traduisant tes mots. Et si on s'accouplait, oh le temps d'un couplet, dans ma langue ou la tienne, dis-moi celle qui te gêne. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêvasse et qui s'acharne dans tes douces gares. Je veux que ce soit moi, Véronica. Fréquence. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, il y a celui qui rêvasse et qui s'acharne dans tes duos, ce gars. Je veux que ce soit moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Dans votre ouvrage, Michel Benoît, intitulé « Les morts mystérieuses de l'histoire », vous arrêtez sur Joachim Pepper, à travers un chapitre intitulé « Quand le passé ressurgit ». Qui était Joachim Pepper ?
Alors Joachim Pepper était un militaire donc gradé, hautement gradé SS, qui avait été condamné donc à la libération par l'armée américaine pour avoir exécuté des soldats américains au mépris de toutes les règles lors de la bataille des Ardennes. Donc il a été condamné à mort en premier lieu, il a été gracié, ils l'ont condamné donc ensuite à la prison. En fait, il n'aura fait que 4 ans ou 5 ans de prison maximum et il va être libéré très rapidement. Il va aller travailler donc dans des grandes entreprises allemandes, comme beaucoup de dignitaires nazis à l'époque, comme je pense à Volkswagen ou d'autres entreprises comme ça. Et donc, il va poursuivre sa carrière tranquillement, jusqu'en 1970 ou 12, où il va être retraité. Et il va décider de passer sa retraite donc à Vesoul, voilà, en Alsace. Et à ce titre, il achète une maison. Et comme on chassait le passé, il revient au galop, il va vouloir clôturer sa maison. Avec une barrière, avec du fil de fer, etc. quoi. Et donc, pour ce, il va aller chercher des matériaux, et il va se retrouver donc dans une boutique chez Catena, à l'époque, que tout le monde connaissait. Catena, c'était la boutique du bricoleur. Et il va se retrouver devant un vendeur, malheureusement pour lui, qui va le reconnaître, puisqu'en fait, il s'agit du chef de la résistance de Vesoul de l'époque, et qui va le suivre, qui va trouver son identité, et qui va en parler un petit peu à tout le monde. On coupera. Voilà, je peux plus là. Et donc il va le reconnaître et en parler autour de lui en disant Paper est en France, après tout ce qu'il a fait, c'est pas normal, etc. Et il y a un journaliste du Monde et de l'Humanité, à l'époque, qui s'appelle Pierre Durand, qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet, qui va s'intéresser à ce Paper, et qui va trouver qu'en fait, Paper était aussi un assassin, avait commis des actes d'assassinat en Italie, sur des populations civiles, et qu'il n'en a jamais été jugé à ce titre. Alors il se trouve que, évidemment, là, ça change toutes les donnes, puisque s'il a été jugé d'un côté, on ne peut pas le rejuger pour les Américains. Mais par contre, concernant la population civile italienne, ça, par contre, il risque quand même, malgré tout, gros, à ce niveau-là. Et donc, il va y avoir des manifestations dans son village, à Vesoul, etc. Et on va se retrouver un 14 juillet, où, en guise de feu d'artifice, c'est sa maison qui va brûler. Complètement, on va retrouver le cadavre d'un chien brûlé et le cadavre d'un homme aussi complètement brûlé, et on va penser que en fait Paper est décédé dans sa maison. Voilà un petit peu le début de cette histoire, je veux dire, que vous pourrez lire avec plaisir en lisant Les Morts mystérieuses de l'histoire. Parce qu'en fait l'histoire n'est pas finie. Et vous verrez que c'est très surprenant ce qui s'est passé à cette époque-là.
Merci Michel Benoît. Effectivement, on retrouve ces obscurs dossiers dans votre ouvrage aux éditions Erol, Les Morts mystérieuses de l'histoire. Mais c'est intéressant aussi de se pencher sur la mort de John Lennon, Marilyn Monroe, Staline, le petit père des peuples, mars 53.
Alors, je voulais juste, si vous me permettez Yannick, juste faire dire quelques mots quand même. Par rapport à la réaction de certains lecteurs, la mort des hommes et des personnages célèbres a toujours intrigué les contemporains ou les historiens. Surtout si ces célébrités, que l'on considère souvent comme immortelles, meurent tragiquement, violemment, inopément. Mon avis à moi, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'il existe des maniaques du complot que les complots n'existent pas. Depuis les premiers âges de l'homme, ce dernier cultive l'art de tuer avec intelligence, souvent avec assiduité, et le meurtre devenant l'un des piliers de notre civilisation. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a des complotistes qui doutent de tous les événements. Mais c'est pas parce qu'il y a des complotistes et des complots qu'il n'y a pas aussi des morts mystérieuses. Voilà.
Merci Michel Benoît. Il y a aussi un chapitre passionnant là, sur l'affaire du courrier de Lyon. Ça, c'est une affaire absolument remarquable. Ou même Léon Gambetta avec l'autopsie.
Et, oui, tout à fait.
Et une sorte de. La mort éparpillée.
La mort éparpillée, oui, tout
faut,
à fait.
Il faut lire cela. Ouais. Je rappelle, c'est Les morts mystérieuses de l'histoire de Michel Benoît. C'est aux éditions Erol. Merci Michel d'avoir été devant le micro de Wagon Livre.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
Et je suis certain que vous aurez donné l'envie à nos auditrices et auditeurs d'aller découvrir et d'ouvrir d'autres dossiers obscurs, en tout cas énigmatiques, les morts mystérieuses de l'histoire.
Merci.
Merci Michel, bonne soirée à toutes et à tous, au revoir et à mercredi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre.